One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann.
SLP, salut les PD. Salut.
Salut!
Voilà, ceux qui ont répondu, donc c'est Ghislain et Ariane. On est trois ce soir, Ghislain, Ariane, Philippe, votre serviteur. Et on embraye tout de suite parce qu'une demi-heure, ça passe super vite. Aujourd'hui, on parle mariage et plus précisément, ouverture du droit au mariage aux homosexuels. Alors, c'est une partie de plaisir, on va dire. Moi, ce que je vous propose, c'est... c'est de partir, par exemple, faire un petit voyage tout de suite. On envoie un jingle et un premier son et on revient en plateau tout de suite derrière. Vous allez comprendre.
SLP, la émission.
C'est le baiser le moins discret du moment à Buenos Aires et Alejandro et José María ne se lassent pas de l'offrir aux objectifs du monde entier. Nous sommes au mois de novembre, ce couple homosexuel vient de conquérir ce qu'aucun auparavant n'avait réussi à obtenir, le droit de se marier.
Maintenant, on va pouvoir partager notre assurance sociale. On va pouvoir avoir les mêmes droits que tous les autres couples, parce que nous le méritons.
En avril dernier, ce couple avait porté plainte pour discrimination après s'être vu refuser le droit au mariage à la mairie. La justice leur a finalement donné raison. Selon elle, les articles du Code civil qui stipulent que seules des personnes de sexe opposé peuvent s'unir sont inconstitutionnels. Le couple s'est donc marié lundi à Ushuaia, au sud de l'Argentine.
C'est une célébration intime, mais aussi publique et politique. Nous devons sacrifier notre intimité pour que tout le monde puisse découvrir que l'Amérique latine et l'Argentine particulièrement, est en train de s'ouvrir à l'égalité juridique.
Dans un pays très catholique, les deux hommes sont vite devenus le symbole des revendications du mouvement gay, mais leur union ne fait pas automatiquement jurisprudence pour autant, et l'égalité de droit est encore loin. Il y a beaucoup de discrimination à l'école, dans la famille, au travail, dans la rue. Ce dont nous avons besoin, c'est que ces avancées se poursuivent en Amérique latine, car nous sommes persuadés que lorsque un ou deux pays accepteront ce droit, les autres suivront. En 2002, l'Argentine avait été le premier État sud-américain à autoriser les unions civiles entre personnes du même sexe. Avec le mariage d'Alejandro et José María, elle devient le premier État à déclarer deux hommes mari et mari.
Voilà, alors ça vous l'aurez compris, on est parti en Argentine là. Le reportage date de novembre 2009, donc ça fait plus d'un an maintenant.
Ouais, c'est vachement intéressant, hein, n'empêche.
C'est intéressant et c'est troublant quand même de se dire que, sans porter de jugement de valeur, en Argentine, aujourd'hui, deux hommes peuvent se marier. Enfin, ça ne fera pas forcément jurisprudence, mais en tous les cas...
Ça n'a pas fait jurisprudence, puisque là, en Argentine, apparemment, c'est la justice locale qui a jugé les articles stipulant que les deux personnes à marier devaient, enfin, que dire que ça devait être des personnes de sexe différent, c'était inconstitutionnel. J'imagine que la Constitution porte des bases contre la discrimination. C'est aussi le cas de la nôtre ici, et la justice, elle nous a pas dit ça. Et le Conseil constitutionnel non plus.
Voilà, ouais. on va y revenir. Ouais. On va y revenir, parce qu'effectivement, l'actualité, elle est riche de ce point de vue-là. Ouais. En France, en ce début d'année 2011, Ghislain.
Non, ce que je trouve aussi intéressant dans ce reportage, c'est de voir qu'en fait, on nous dit que la société argentine est beaucoup moins avancée au niveau acceptation de l'homosexualité, qu'il y a encore beaucoup de discrimination, de choses comme ça. Et pourtant, eh ben, y a la justice qui a décidé qu'on pouvait marier deux hommes, que c'était inconstitutionnel de leur interdire. C'est quand même intéressant. Je veux dire, nous, on est dans une société en France qui est beaucoup plus évoluée à ce niveau-là.
Et la loi suit pas, et le
milieu politique coince. Bon, plus précisément, donc forcément, on est obligé de faire allusion, et Montpellier est concerné en premier chef là-dessus, au mariage symbolique de Florent et Tito. Donc pareil, on écoute un petit reportage là-dessus qu'on a récupéré. Je crois que c'est la télé marseillaise régionale qui a fait un reportage là-dessus. On écoute ça brièvement pour un peu se remettre dans le contexte.
Ils sont ensemble depuis 25 ans. Ils devaient se marier la semaine dernière. Oui, mais voilà, Tito est portugais. Son futur époux, Florent, est français. Et si le mariage homosexuel est autorisé chez l'un au Portugal, il ne l'est pas chez l'autre en France. Et le consulat portugais de Marseille, qui devait unir les deux hommes, a finalement fait machine arrière pour des raisons administratives. Hélène Mandroux, le maire de Montpellier, qui a fait du mariage gay un de ses combats, a fait une proposition aux deux hommes. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran.
Déjà, le fait de faire ce mariage officiellement, exactement comme pour tous les mariages qui existent entre les hétérosexuels, je pense que ça va mobiliser ce que j'espère, mobiliser nos parlementaires, les mobiliser, et que demain, en tout cas, ce mariage homosexuel soit mis, bien évidemment, au programme du candidat des présidentielles de 2012. Et j'espère bien de mon candidat, en tout cas, qui sera désigné par le Parti Socialiste. C'est déjà dans le programme de Martine Aubry.
Si, par exemple, ça pourrait mener à une action qui aide, par exemple, à la réflexion du Conseil constitutionnel ou des choses comme ça, bah, oui, pourquoi pas. Mais uniquement si c'est quelque chose de sérieux qui peut aboutir à quelque chose. Si c'est pour faire un mariage de sang, je ne vois pas l'intérêt. Pour l'instant, c'est possible au Portugal, je veux me marier au Portugal. Après, on verra pour la France. Ça, c'est un autre problème. Ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement français ne fasse pas pression sur le gouvernement portugais pour empêcher des mariages selon la loi portugaise. Parce que ça ne regarde en rien la France, et le Portugal n'est pas une colonie française, que je sache.
Alors là, on comprend bien, hein. non seulement, a priori, le politique, le juridique ne joue pas leur rôle en France, mais en plus de ça, ils font preuve d'obstruction, on dirait.
Parce que ce qu'on a pu entendre dans la même voix dans ce studio-ci, le soir où a été annoncée la proposition d'Hélène Mandroux, puisque ça a été fait au micro de Divergence, le soir de l'inauguration du local de la LGP, sur le trottoir d'en face, le support là sur le refus administratif, le soupçon que soulevaient donc les autorités françaises, c'était un soupçon de polygamie. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Je me souviens, quand j'ai entendu ça dans la bouche d'un des futurs époux, j'ai été mais scotchée. Mmh. J'ai trouvé ça mais ahurissant, quoi.
Mais ça, est-ce que c'est pas l'excuse qui est avancée finalement pour pas prendre véritablement une responsabilité de validation comme ça de cette ouverture?
Mais c'est très grave, enfin je trouve ça très grave quand même. Les ambassades, les consulats, c'est des bouts du pays en France, c'est-à-dire on n'est plus en territoire français, on est là dans ce cas-là, on est en territoire portugais.
C'est limite de l'ingérence, ouais.
C'est ce que disait Tito, c'est-à-dire c'est le Portugal, c'est pas une colonie, on n'a pas à leur interdire, on n'a pas à leur dire dans certaines parties de votre territoire la loi ne s'applique pas. C'est quoi ce travail-là ? Enfin, c'est quoi ? On est où ?
Et puis c'est aussi le Portugal qui se laisse impressionner et qui recule, qui accepte d'être limité en cela au niveau de ses consulats. C'est assez inquiétant.
C'est super inquiétant. Et c'est, on peut raccrocher ça aussi peut-être à, d'une façon générale, ce qui se passe en Europe, où on voit des pays, par exemple, qui, pour pouvoir ratifier le traité de Lisbonne, ont demandé, la Pologne, à ce qu'on ne les oblige pas justement à accorder des droits aux homosexuels, et l'Irlande
sur l'avortement,
c'est-à-dire qu'on ne les oblige pas à faire une loi qui légalise l'avortement. C'est-à-dire qu'on voit que l'Europe... en fait, est très faible et cède sur plein de choses où elle était justement garante d'une certaine protection, sur certaines libertés, sur une certaine avancée, protection des droits des citoyens et tout ça. On voit qu'en fait, elle est très faible aussi là-dessus.
Nous, ce qu'on pouvait espérer de la Charte européenne des droits de l'homme, ça prend pas forme, quoi. Voilà, c'est ça qu'on observe.
Ça en prend pas le chemin. Et il me semble là que... Rappelez-vous l'histoire de la Hongrie et de la liberté de la presse, c'est-à-dire Orban, le populiste au pouvoir, qui avait fait une loi qui disait qu'en fait, on ne pouvait publier d'articles que s'il était politiquement neutre.
Ça, c'était quand, Ghislain, ça ?
Politiquement objectif. Je crois que c'était en décembre ou quelque chose comme ça. D'accord. Et en fait, ça avait fait un mini tollé, on va dire. Il n'y avait que les journalistes, en gros, qui avaient crié au loup, et l'Europe avait mollement réagi, et il me semble là, mais bon, j'en suis pas sûr, ça a vérifié, qu'elle vient de dire qu'en fait ça ne violait pas les droits de la presse, mais ça a vérifié ça. Enfin, on voit que, en tout cas, l'Europe cède, c'est-à-dire l'Europe qui était un rempart sur certaines choses, cède complètement et n'est plus aucun... plus ce rôle-là, en tout cas. Et
donc, mais comment du coup, elle aurait pu l'avoir ? Parce qu'il n'y a aucun... les traités repoussés, acceptés, etc. De toute façon, il n'y a pas de sanctions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas exclure un pays de l'Union européenne. Et qu'est-ce qui existe comme sanction ? Les choses, elles sont tellement denses avec tous les pays qui ont les mêmes monnaies, qui ont, etc. Tu ne peux pas couper même des sanctions économiques. Tu peux pas,
non, mais par exemple, tu peux faire comme pour la peine de mort. C'est-à-dire que pour pouvoir adhérer à l'Union européenne, il ne faut pas que tu pratiques la peine de mort.
Oui, mais si tu es rentré dans l'Union européenne et que tu changes de gouvernement et ce gouvernement-là la rétablit, tu es sûr que tu...
Je pense que normalement ça devrait poser problème, puisque c'est écrit qu'en fait tu ne peux pas faire partie de l'Union européenne si tu pratiques la peine de mort. Tous les pays qui adhèrent à l'Open ont aboli la peine de mort et la pratiquent plus, quoi. Et c'est ce qui posait problème avec la Turquie. C'est-à-dire que c'était des avancées aussi qu'on attendait de la part des Turcs. Enfin, tu vois, ce genre de choses-là.
Mais franchement, j'attends de voir.
Moi, j'espère que c'est le cas, se posera jamais.
Moi aussi, mais je pense qu'il n'y a pas de moyen de faire pression, il n'y a pas de moyen coercitif pour. Parce qu'il y a donc ces autres éléments qui sont contrevenants, quoi, par rapport à la Charte européenne des droits de l'homme, et il ne se passe rien.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause musicale et après, on revient avec un son pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi ça ne passe pas et qu'est-ce qui véritablement peut poser problème, quels sont en gros les points de vue qui s'opposent. Ok ?
Allez.
King, and she was eating, she was eating, she was eating. I seen Beyonce at Burger King. She ordered two cheeseburgers with onion rings. She got a chocolate shake and a side of fries. Chicken strips with apple pies. Yeah, I seen Beyonce at Burger King. She ordered two cheeseburgers with onion rings. She got a chocolate shake and a side of fries. Then she looked dead in my eyes and she says, can I borrow $10? I left my purse in the car. It's parked three blocks away and baby, that's just too far, too far. Okay, but you gotta pay me back if you borrow, and have my $10 when I see you tomorrow. No acting funny, said Kaz. Would I lie to you? Then she smiled and snatched my money, I said. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. And she was eating.
She what?
She was eating. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. And she was eating.
She was what?
She was eating. She was eating.
I seen Beyonce at JCPenney. She rolled up in a 94 Chevy.
She screeched into the handicap, applying chapstick with her beef phone on her lap. She says, can you watch my car? I gotta run in and buy a quick something for me and my man. I said, I can, but you still owe me 10 ducats. She rolled her eyes and says, fuck it. I said,
I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. And she was eating.
She was what?
She was eating. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. And she was eating.
She was what?
She was eating.
I seen Beyonce at the liquor store. She completely ignored me walking through the door. She had a freaking dress on from the house of Darion. It was patting her weave, ladies with her palm. She was looking around for some customer service. I walked up to her, made her security nervous. She said, how much for a case of beer? I says, girl, you drunk? I don't work here.
I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. And she was eating.
She was what?
She was eating. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. And she was eating.
She was what?
She was eating. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. And she was eating.
She was what?
She was eating. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King. I seen Beyonce at Burger King.
She was what?
She was eating.
She was eating.
Alors ça c'était quoi Ghislain ?
C'était trop bien ! J'adore ce garçon, c'est Caswell.
Ouais, on recommande.
Amis, quand même.
Et ses petits amis, oui, c'est un featuring de je ne sais pas qui, mais ça vous le trouvez sur le net.
Mais on s'en fout, on y va parce que c'est Caswell.
Ouais, tout à fait. Mais on recommande la vidéo.
Ouais,
la vidéo. Et allez voir aussi.
Ice Cream Trunk, attends.
Ice Cream, ah ouais. Et puis Watch My Mouth.
Lick My. Ouais, non, c'est trop bien. Watch My Mouth.
Caswell, donc.
Caswell.
SLP, salut les PD. On parle de mariage, mariage gay. Enfin, je sais pas si c'est l'expression qui convient, parce que finalement, il n'y a pas de mariage gay, mais en tous les cas, d'ouverture éventuelle du mariage au couple homo, ce qui est pas gagné d'avance. Alors, oui, je voudrais qu'on écoute un débat, pas en entier, mais en tous les cas, une partie d'un débat qui a eu lieu, je pense que c'était en juillet 2009, entre Caroline Mécari, l'avocate des droits homo, entre autres choses. Allez sur le blog de Caroline Mécari, il y a plein de choses intéressantes. Donc Caroline Mécari et Béatrice Bourges, qui porte bien son nom et qui est la présidente de l'Association pour la protection de l'enfance. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. On en écoute un extrait, c'est le son numéro 5, je crois, Tao.
C'est la Cour suprême du Canada qui a indiqué que la définition du mariage, uniquement définie comme étant l'union d'un homme et d'une femme, constituait une violation de la charte canadienne des droits fondamentaux et notamment du principe d'égalité. Et c'est comme ça que le Canada, par exemple,
c'est là qu'en fait on n'est pas du tout d'accord. On n'est pas du tout d'accord parce que, je pense qu'en fait il ne s'agit pas d'une discrimination. Et pourquoi il ne s'agit pas d'une discrimination ? Parce que pour moi, le mariage, ça n'est pas juste la reconnaissance sociale d'un amour. Le mariage, c'est bien autre chose. Le mariage, ça institue la filiation, ça régit la vie d'une communauté qui est composée de descendants et d'ascendants. Et à partir de ce moment-là, j'y suis en effet opposée. Et pourquoi ? Parce que je crois que si on commence à autoriser, suivant le principe de discrimination,
De non-discrimination.
Oui. Enfin, oui, c'était l'article 14, notamment, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne l'Union européenne. Mais à ce moment-là, pourquoi n'autoriserait-on pas d'autres formes de mariage ? À partir du moment où on reconnaît que ça n'est pas une institution...
Vous parlez quoi de mariage institutionnel ?
Non, j'ai pas terminé. Qu'est-ce que c'est pour vous que l'institution du mariage ? Alors, c'est juste la reconnaissance sociale
d'un amour. Pas du tout, madame. L'institution maritale est un cadre juridique qui permet d'organiser la vie commune.
Ça n'est pas juste un cadre juridique.
Alors, vous, c'est sacré.
Un mariage
est sacré pour vous. Donc, il est religieux.
Mais enfin, mais attendez, alors ça, c'est
mais qu'est-ce qu'il est alors disqualifié-le.
Je dis que c'est une institution.
Ah, voilà, mais c'est une institution religieuse.
Pourquoi je n'aurais pas la possibilité de me marier si c'est mais juste donc, la reconnaissance sociale,
vous marier,
la possibilité
problème.
De me marier avec pourquoi deux hommes, pourquoi si je les aime,
pourquoi
ces deux hommes.
Est-ce que vous refusez à des personnes qui ne vivent pas comme vous le droit de se marier au nom de quoi?
Mais expliquez-nous.
Expliquez-nous
que pour moi, et c'est ce que je vous explique depuis le début, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas parce que le mariage régit une vie de communauté.
Mais c'est pas que c'est
votre
éventuel.
Et alors, à partir de ce moment-là, quand le mariage régit la vie d'une communauté avec ascendant et descendant, à partir de ce moment-là, il ouvre la porte. Il ouvre la porte. D'abord, il y a deux choses. Il y a l'adoption.
32% pour faire avancer le débat quand même un petit peu.
Alors voilà, il ouvre la porte, j'ai volontairement coupé le son ici parce que...
Un peu cut.
Comment c'est cela ?
Un peu cut, on va dire.
Un peu cut, ouais. Ouais. Mais bon, on y reviendra dans une prochaine émission. Il ouvre
sur
la
le
porte
montage.
À quoi ? Il ouvre la porte à quoi ? Eh bien à autre chose, et notamment aux questions relatives à l'homoparentalité. Et on voit bien que, effectivement, c'est là que le bas blesse, qu'il y a en fait deux conceptions qui s'opposent. Et éventuellement, même ce que je trouve intéressant, c'est que donc Béatrice Bourges, a priori, effectivement, elle sent bien plus ou moins intuitivement que l'ouverture de ce droit va remettre fondamentalement en question certaines de ses valeurs qui lui sont propres, qui sont propres à une certaine catégorie de la société, mais qui prend ses valeurs pour quelque part argent comptant, quoi, c'est-à-dire, et qui les impose finalement à la société entière. Vous êtes d'accord avec ça ?
Avec toi, oui. mais aussi un peu avec Béatrice Bourges quand même, bébé. Quand elle dit par exemple que le mariage, c'est pas seulement la reconnaissance d'un amour. Tu vois que ça va plus loin, que ça engendre aussi de la filiation, ce genre de choses-là, ce que tu viens de rappeler.
Ouais.
Je suis tout à fait d'accord, c'est bien pour ça qu'on veut se marier, c'est bien.
Oui, oui, tout à fait. Mais donc Caroline Mécari, je pense, ne nie pas ça, bien au contraire.
Elle pose le cadre juridique, et c'est vrai que les articles du Code civil qui sont lus lors d'un mariage, la plupart d'entre eux concernent la filiation. Le mariage, c'est le moment où est remis aux époux le livret de famille. C'est voilà, sur le plan de l'état civil, c'est la préparation à la filiation, et c'est pour ça que certains des articles n'ont pas été lus pour le mariage dont on a parlé tout à l'heure avec Hélène Mandrou n'a pas lu tous les articles, donc c'était une cérémonie symbolique mais qui ne concernait donc que le côté reconnaissance sociale d'une vie de couple, mais pas le reste, quoi. Et en plus, elle n'a pas fait le pas d'essayer de les inscrire sur les registres d'état civil.
Ça, c'est intéressant aussi, parce que, si vous vous souvenez bien, des mariages, il y en a eu au moins un, et même hyper médiatisé, il y a quelques années. Hein, je ne sais pas exactement comment il s'est soldé, on ne reviendra peut-être pas là-dessus.
Ça a été annulé, ça ne pouvait pas être reçu par l'état civil. Hein.
Ouais. Et ma mère a été condamnée. Et,
Parce qu'en tant qu'officier de l'état civil, il est contrevenu.
Il a l'obligation de respecter la loi. C'est ce que Mandrou a répété, a rappelé en début de cérémonie. Il a dit, en tant qu'officier d'état civil, je me dois d'obéir à la loi. Voilà. Pour en venir à Madame Bourges, Mademoiselle Bourges, je ne sais pas. C'est intéressant aussi de voir qu'elle dit, si c'est pas juste la reconnaissance, si c'est juste la reconnaissance d'un amour, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de me marier à deux hommes si je les aime ?
Mais donc, si elle veut.
Mais moi, je suis d'accord avec elle, tu vois. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, dans cette évolution, on ne pourrait pas faire aussi évoluer le mariage dans ce sens-là ? C'est-à-dire que le mariage, il organise la vie commune de gens entre eux, d'accord ? Avec, ça régit les biens, mais ça régit aussi les enfants qui pourraient éventuellement vivre dans
cette communauté. Les devoirs de soutien les uns envers les autres aussi, souvent.
Les devoirs de soutien, mais ça, c'est dans le Pax, par exemple, ça l'est, ça. Et,
la solidarité des dettes, bon, tu peux faire un contrat, même un Pax, tu peux faire un contrat mariage aussi, hein, tu peux avoir un contrat.
Mais voilà quoi, et du coup, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, puisqu'on en est là-dedans, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas évoluer le mariage aussi dans
mais
ce
oui,
sens-là,
mais le,
tu
je
vois,
pense que remet, le véritable débat, il est là, et c'est là où ça pose problème, c'est-à-dire que derrière cette question-là, en fait, il y a une véritable révolution de société qui est en jeu, mais Par contre, effectivement, il faut qu'on aille peut-être plus au fond des choses dans ce débat-là. Qu'est-ce que ça met en jeu véritablement? Mais c'est sûr que c'est un système de valeurs contre un autre, hein, sans doute.
Oui, et c'est un système de valeurs qui est tellement ancré, dans la société occidentale, il n'y a jamais eu trop d'autres façons d'organiser la vie commune des couples.
Oui.
Non.
Parce que les vies communes, elles s'arrêtaient pas au couple. À d'autres époques, la famille était beaucoup plus étendue que ce qu'on vit aujourd'hui.
Mais on n'a jamais eu besoin d'avoir des contrats pour planifier ça. Tu vois ce que je veux dire?
Non, alors la solidarité jouait autrement, parce que la vie était moins urbaine aussi, quoi. Ouais. C'est d'autres temps, d'autres mœurs. Mais c'est vrai, moi, là, je reviens un petit peu sur le sentiment actuel. Moi, j'ai l'impression que le côté le plus chatouilleux reste la possible parentalité, puisque donc ouvrir les droits au mariage, c'est ouvrir les droits à la parentalité si on laisse le mariage tel que.
Mmh.
Or, si on réclame le mariage tel que, c'est pas seulement pour la parentalité, c'est aussi parce que, je voulais le rappeler quand même, le Pax n'ouvre pas les mêmes droits, et pas seulement à ce titre-là. Au niveau des voies successorales et de pas mal d'autres formalités, de choses qui finalement regardent la vie quotidienne, le Pax ne donne pas du tout accès aux mêmes droits que le mariage.
C'est ça, et c'est aussi autre chose, c'est même une question de principe sur l'aspect simplement halte à la discrimination. Je vous propose qu'on écoute encore un autre son, donc c'est un an après l'appel de Montpellier, donc lancé par Hélène Mandroux, c'était en novembre 2009.
Oui,
donc il y a eu un anniversaire qui a été fêté avec, moi, je sais pas s'il y avait beaucoup de monde, j'étais pas honnêtement. Ariane, tu y étais, toi?
Non, je pouvais pas.
T'avais une bonne excuse?
Moi, j'avais piscine.
J'étais au Maroc.
D'accord. Donc on écoute quelques réactions dans la manifestation.
Moi, j'attends simplement l'égalité des droits pour tous. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être une citoyenne de seconde zone ou une citoyenne. Moi, je veux avoir les mêmes droits que mon voisin, ma voisine, pouvoir me marier avec la personne que j'aime ou avoir le droit de ne pas me marier si j'ai pas envie de me marier. J'ai envie, si je suis en couple depuis de nombreuses années, d'avoir les mêmes droits devant la succession de mon conjoint ou ma conjointe que n'importe quel couple hétérosexuel. Je veux que si jamais avec ma conjointe on décide d'adopter un enfant ou on décide de faire un enfant, je veux que cet enfant puisse avoir deux parents reconnus par la loi et qui puissent grandir en toute sécurité. Voilà, je veux tout simplement avoir les mêmes droits que n'importe qui.
C'est important d'être là à un moment où la question de l'égalité des droits entre citoyens est quelque chose d'assez fondamental, où on s'aperçoit par exemple qu'en Italie, un président comme Berlusconi, pour justifier ses partouzes avec des prostituées mineures, ben dit que ça c'est franchement mieux que d'être gay. Je pense qu'il y a un côté révoltant et que dans cette société, il faut affirmer pour chacun, chacune, l'égalité des droits, les mêmes droits et la même place dans une société sans avoir aucune discrimination ni parole méprisante.
Le mariage, c'est la misère. Tout dans la même galère. Le mariage, c'est la misère. Tout dans la même galère. Le mariage, c'est la misère. Tout dans la même galère.
Voilà, bah c'est déjà la fin de l'émission, on a deux minutes pour conclure. Alors le mariage et la misère, tous dans la même galère, vous êtes d'accord avec ça?
Exactement, ouais. En fait, je crois que c'est des gens qu'on connaît bien qui disaient « nous on veut juste avoir le droit de ne pas se marier ».
Bah oui, ouais. Paola, pour ne pas la citer, entre autres. Bonjour Paola, si tu nous écoutes.
Et Maya qu'on viendrait entendre.
Ouais, donc voilà, peut-être que l'aspect, enfin pas forcément le plus important, mais à la base il y a ça aussi, c'est halte à la discrimination encore une fois. On a le droit de pouvoir se marier pour ne pas avoir à le faire éventuellement.
Exactement.
On conclut là-dessus? Enfin, on conclut brièvement, parce que forcément, cette émission appelle d'autres thèmes qu'on a déjà plus ou moins évoqués.
Bon, on n'a pas eu le temps de parler du Conseil constitutionnel et ce genre de choses-là.
Je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Moi, je propose qu'on y revienne assez rapidement, d'ailleurs. Allez.
Eh ben, au revoir.
Au revoir, à la semaine prochaine.